Nous arrivâmes au château patrimonial, où je restai pendant 40 jours environ. Ce temps, monsieur, est la seule part de bonheur complet que le ciel m'ait accordée. Je savourai des plaisirs inconnus aux habitants des villes. Ce fut tout le bonheur qu'ont deux amants à vivre sous le même toit, à s'épouser par avance, à marcher de compagnie à travers les champs, à pouvoir être seul parfois, à s'asseoir sous un arbre au fond de quelque jolie petite vallée, à y regarder les constructions d'un vieux moulin, à s'arracher quelques confidences, vous savez, de ces petites causeries douces par lesquelles on s'avance tous les jours un peu plus dans le cœur l'un de l'autre. Ah, monsieur, la vie en plein air, les beautés du ciel et de la terre, s'accordent si bien avec la perfection et les délices de l'âme. Ce sourire, en contemplant les cieux, mêler des paroles simples au chant des oiseaux sous la feuillée humide, revenir au logis à pas lents en écoutant les sons de la cloche qui vous rappelle trop tôt, admirer ensemble un petit détail de paysage, suivre les caprices d'un insecte, examiner une mouche d'or, une fragile création que tient une jeune fille aimante et pure, n'est-ce pas être attiré tous les jours un peu plus haut dans les cieux? Il y eut pour moi, dans ces 40 jours de bonheur, des souvenirs à colorer toute une vie. Souvenirs d'autant plus beaux et plus vastes que jamais depuis je ne devais être compris. Aujourd'hui, des images simples en apparence, mais pleines de signifiances amères pour un cœur brisé, m'ont rappelé des amours évanouis, mais non pas oubliés. Je ne sais si vous avez remarqué l'effet du soleil couchant sur la chaumière du petit Jacques. En un moment, les feux du soleil ont fait resplendir la nature, puis soudain, le paysage est devenu sombre et noir. Ces deux aspects si différents me présentaient un fidèle tableau de cette période de mon histoire. Monsieur, je reçus d'elle le premier, le seul et sublime témoignage qu'il soit permis à une jeune fille innocente de donner, et qui, plus furtif il est, plus il engage. Suave promesse d'amour, souvenir du langage parlé dans un monde meilleur. Sûr alors d'être aimé, je jurai de tout dire, de ne pas avoir un secret pour elle. J'eus honte d'avoir tant tardé à lui raconter les chagrins que je m'étais créés. Par malheur, le lendemain de cette bonne journée, une lettre du précepteur de mon fils me fit trembler pour une vie qui m'était si chère. Je partis sans dire mon secret à Evelina, sans donner à la famille d'autre motif que celui d'une affaire grave. En mon absence, les parents s'alarmèrent. Craignant que je n'eusse quelques engagements de cœur, ils écrivirent à Paris pour prendre des informations sur mon compte. Inconséquents avec leurs principes religieux, ils se défièrent de moi, sans me mettre à même de dissiper leurs soupçons. Un de leurs amis les instruisit, à mon insu, des événements de ma jeunesse, envenima mes fautes, insista sur l'existence de mon enfant que, disait-il, j'avais à dessein caché. Lorsque j'écrivis à mes futurs parents, je ne reçus pas de réponse. Ils revinrent à Paris. Je me présentai chez eux. Je ne fus pas reçu. Alarmé, j'envoyai mon vieil ami savoir la raison d'une conduite à laquelle je ne comprenais rien. Lorsqu'il en apprit la cause, le bon vieillard se dévoua noblement. Il assuma sur lui la forfaiture de mon silence, voulut me justifier et ne put rien obtenir. Les raisons d'intérêt et de morale étaient trop graves pour cette famille. Ses préjugés étaient trop arrêtés pour la faire changer de résolution. Mon désespoir fut sans bornes. D'abord, je tâchais de conjurer l'orage, mais mes lettres me furent renvoyées sans avoir été ouvertes. Lorsque tous les moyens humains furent épuisés, quand le père et la mère eurent dit au vieillard, auteur de mon infortune, qu'ils refuseraient éternellement d'unir leur fille à un homme qui avait à se reprocher la mort d'une femme et la vie d'un enfant naturel, même quand Evelina les implorerait à genoux, alors, monsieur, Il ne me resta plus qu'un dernier espoir, faible comme la branche de saule à laquelle s'attache un malheureux quand il se noie. J'osais croire que l'amour d'Evelina serait plus fort que les résolutions paternelles, et qu'elle saurait vaincre l'inflexibilité de ses parents. Son père pouvait lui avoir caché les motifs du refus qui tuait notre amour. Je voulus qu'elle décidât de mon sort en connaissance de cause. Je lui écrivis. Hélas, monsieur, dans les larmes et la douleur, je traçais, non sans de cruelles hésitations, la seule lettre d'amour que j'aie jamais faite. Je ne sais plus que vaguement, aujourd'hui, ce que me dicta le désespoir. Sans doute, je disais à mon Evelina que si elle avait été sincère et vraie, elle ne pouvait, elle ne devait jamais aimer que moi. Sa vie n'était-elle pas manquée? N'était-elle pas condamnée à mentir à son futur époux ou à moi? Ne trahissait-elle pas les vertus de la femme en refusant à son amant méconnu le même dévouement qu'elle aurait déployé pour lui si le mariage accompli dans nos cœurs se fût célébré? Et quelle femme n'aimerait à se trouver plus liée par les promesses du cœur que par les chaînes de la loi? Je justifiais mes fautes en invoquant toutes les puretés de l'innocence, sans rien oublier de ce qui pouvait attendrir une âme noble et généreuse. Mais puisque je vous avoue tout, je vais vous aller chercher sa réponse et ma dernière lettre, dit Benassi, en sortant pour monter à sa chambre. Il revint bientôt, en tenant à la main un portefeuille usé, duquel il ne tira pas, sans une émotion profonde, des papiers mal en ordre et qui tremblèrent dans ses mains. Voici la fatale lettre, dit-il. L'enfant qui traça ces caractères ne savait pas de quelle importance serait pour moi le papier qui contient ses pensées. Voici, dit-il, en montrant une autre lettre, le dernier cri qui me fut arraché par mes souffrances, et vous en jugerez tout à l'heure. Mon vieil ami porta ma supplication, la remit en secret, humilia ses cheveux blancs en priant Evelina de la lire, d'y répondre. Et voici ce qu'elle m'écrivit. Monsieur, moi qui naguère étais son aimé, nom chaste, trouvé par elle pour exprimer un chaste amour, elle m'appelait monsieur. Ce seul mot disait tout. Mais écoutez la lettre. Il est bien cruel pour une jeune fille d'apercevoir de la fausseté dans l'homme à qui sa vie doit être confiée. Néanmoins, j'ai dû vous excuser, nous sommes si faibles. Votre lettre m'a touché, mais ne m'écrivez plus. Votre écriture me cause des troubles que je ne puis supporter. Nous sommes séparés pour toujours. Les raisons que vous m'avez données m'ont séduite. Elles ont étouffé le sentiment qui s'était élevé dans mon âme contre vous. J'aimais tant à vous savoir pur. Mais vous et moi, nous nous sommes trouvés trop faibles en présence de mon père. Oui, monsieur, j'ai osé parler en votre faveur. Pour supplier mes parents, il m'a fallu surmonter les plus grandes terreurs qui m'aient agité et presque mentir aux habitudes de ma vie. Maintenant, je cède encore à vos prières et me rends coupable en vous répondant à l'insu de mon père. Mais ma mère le sait. Son indulgence, en me laissant libre d'être seul un moment avec vous, m'a prouvé combien elle m'aimait, et m'a fortifié dans mon respect pour les volontés de la famille, que j'étais bien près de méconnaître. Aussi, monsieur, vous écrivais-je pour la première et dernière fois. Je vous pardonne sans arrière-pensée les malheurs que vous avez semés dans ma vie. Oui, vous avez raison. Un premier amour ne s'efface pas. Je ne suis plus une pure jeune fille. Je ne saurais être une chaste épouse. J'ignore donc quelle sera ma destinée. Vous le voyez, monsieur, l'année que vous avez remplie aura de longs retentissements dans l'avenir. Mais je ne vous accuse point. Je serai toujours aimée. Pourquoi me l'avoir dit? Ces paroles calmeront-elles l'âme agitée d'une pauvre fille solitaire? Ne m'avez-vous pas déjà perdue dans ma vie future en me donnant des souvenirs qui reviendront toujours? Si maintenant je ne puis être qu'à Jésus, Acceptera-t-il un cœur déchiré? Mais il ne m'a pas envoyé vainement ses afflictions. Il a ses desseins, et voulait sans doute m'appeler à lui, lui, mon seul refuge aujourd'hui. Monsieur, il ne me reste rien sur cette terre. Vous, pour tromper vos chagrins, vous avez toutes les ambitions naturelles à l'homme. Ceci n'est point un reproche, mais une sorte de consolation religieuse. Je pense que si nous portons en ce moment un fardeau blessant, j'en ai la part la plus pesante. Celui en qui j'ai mis tout mon espoir, et de qui vous ne sauriez être jaloux, a noué notre vie. Il saura la dénouer suivant ses volontés. Je me suis aperçu que vos croyances religieuses n'étaient pas assises sur cette foi vive et pure qui nous aide à supporter ici-bas nos maux. Monsieur, si Dieu daigne exaucer les vœux d'une constante et fervente prière, il vous accordera les dons de sa lumière. Adieu. Vous qui avez dû être mon guide, vous que j'ai pu nommer mon aimé sans crime, et pour qui je puis encore prier sans honte. Dieu dispose à son gré de nos jours. Il pourrait vous appeler à lui, le premier de nous deux. Mais si je restais seul au monde, eh bien, monsieur, confiez-moi cet enfant. Cette lettre, pleine de sentiments généreux, trompait mes espérances, reprit Benassi. Aussi d'abord n'écoutais-je que ma douleur. Plus tard, j'ai respiré le parfum que cette jeune fille essayait de jeter sur les plaies de mon âme en s'oubliant elle-même. Mais, dans le désespoir, je lui écrivis un peu durement. Mademoiselle, ce seul mot vous dit que je renonce à vous et que je vous obéis. Un homme trouve encore je ne sais quelle affreuse douceur à obéir à la personne aimée, alors même qu'elle lui ordonne de la quitter. Vous avez raison, et je me condamne moi-même. J'ai jadis méconnu le dévouement d'une jeune fille. Ma passion doit être aujourd'hui méconnue. Mais je ne croyais pas que la seule femme à qui j'eusse fait don de mon âme se chargeât d'exercer cette vengeance. Je n'aurais jamais soupçonné tant de dureté, de vertu peut-être, dans un cœur qui me paraissait et si tendre et si aimant. Je viens de connaître l'étendue de mon amour. Il a résisté à la plus inouïe de toutes les douleurs, au mépris que vous me témoignez en rompant sans regret les liens par lesquels nous nous étions unis. Adieu pour jamais. Je garde l'humble fierté du repentir et vais chercher une condition où je puisse expier des fautes pour lesquelles vous, mon interprète dans les cieux, avez été sans pitié. Dieu sera peut-être moins cruel que vous ne l'êtes. Mes souffrances, souffrances pleines de vous, puniront un cœur blessé qui saignera toujours dans la solitude, car au cœur blessé, l'ombre et le silence. Aucune autre image d'amour ne s'imprimera plus dans mon cœur. Quoique je ne sois pas femme, j'ai compris comme vous qu'en disant « je t'aime », je m'engageais pour toute ma vie. Oui, ces mots prononcés à l'oreille de mon aimé n'étaient pas un mensonge. Si je pouvais changer, elle aurait raison dans ses mépris. Vous serez donc à jamais l'idole de ma solitude. Le repentir et l'amour sont deux vertus qui doivent inspirer toutes les autres. Ainsi, malgré les abîmes qui vont nous séparer, vous serez toujours le principe de mes actions. Quoique vous ayez empli mon cœur d'amertume, il ne s'y trouvera point contre vous de pensées amères. Ne serait-ce pas mal commencer mes nouvelles œuvres que de ne pas épurer mon âme de tout levain mauvais. Adieu donc, vous, le seul cœur que j'aime en ce monde et d'où je suis chassé. Jamais adieu n'aura embrassé plus de sentiments ni plus de tendresse. N'emporte-t-il pas une âme et une vie qu'il n'est au pouvoir de personne de ranimer? Adieu, à vous la paix, à moi tout le malheur. Ces deux lettres lues, Genesta et Benassi se regardèrent pendant un moment, en proie à de tristes pensées, qu'ils ne se communiquèrent point. Après avoir envoyé cette dernière lettre, dont le brouillon est conservé, comme vous voyez, et qui, pour moi, représente aujourd'hui toutes mes joies, mais flétrie, reprit Benassi, je tombais dans un abattement inexprimable. Les liens qui peuvent ici-bas attacher un homme à l'existence se trouvaient réunis dans cette chaste espérance, désormais perdue. Il fallait dire adieu aux délices de l'amour permis, et laisser mourir les idées généreuses qui florissaient au fond de mon cœur. Les vœux d'une âme repentante, qui avait soif du beau, du bon, de l'honnête, étaient repoussés par des gens vraiment religieux. Monsieur, dans le premier moment, mon esprit fut agité par les résolutions les plus extravagantes, mais l'aspect de mon fils les combattit heureusement. Je sentis alors mon attachement pour lui s'accroître de tous les malheurs dont il était la cause innocente et dont je devais m'accuser seul. Il devint donc toute ma consolation. À 34 ans, je pouvais encore espérer d'être noblement utile à mon pays. Je résolus d'y devenir un homme célèbre, afin d'effacer à force de gloire, ou sous l'éclat de la puissance, la faute qui entachait la naissance de mon fils. Combien de beaux sentiments je lui dois, et combien il m'a fait vivre pendant les jours où je m'occupais de son avenir. J'étouffe, s'écria Benassi. Après 11 ans, je ne puis encore penser à cette funeste année. Cet enfant, monsieur, je l'ai perdu. Le médecin se tut et se cacha la figure dans ses mains, qu'il laissa tomber quand il eut repris un peu de calme. Genesta ne vit pas alors sans émotion les larmes qui baignaient les yeux de son hôte. Monsieur, ce coup de foudre me déracina d'abord, reprit Benassi. Je ne recueillis les lumières d'une saine morale qu'après m'être transplanté dans un sol autre que celui du monde social. Je ne reconnus que plus tard la main de Dieu dans mes malheurs, et plus tard je sus me résigner en écoutant sa voix. Ma résignation ne pouvait être subite. Mon caractère exalté dut se réveiller. Je dépensai les dernières flammes de ma fougue dans un dernier orage. J'hésitai longtemps avant de choisir le seul parti qu'il convient à un catholique de prendre. D'abord, je voulus me tuer. Tous ces événements ayant, outre mesure, développé chez moi le sentiment mélancolique, je me décidai froidement à cet acte de désespoir. Je pensais qu'il nous était permis de quitter la vie quand la vie nous quittait. Le suicide me semblait être dans la nature. Les peines doivent produire sur l'âme de l'homme les mêmes ravages que l'extrême douleur cause dans son corps. Or, cet être intelligent, souffrant par une maladie morale, a bien le droit de se tuer au même titre que la brebis qui, poussée par le tournis, se brise la tête contre un arbre. Les maux de l'âme sont-ils donc plus faciles à guérir que ne le sont les maux corporels? J'en doute encore. Entre celui qui espère toujours et celui qui n'espère plus, je ne sais lequel est le plus lâche. Le suicide me parut être la dernière crise d'une maladie morale, comme la mort naturelle est celle d'une maladie physique. Mais la vie morale étant soumise aux lois particulières de la volonté humaine, sa cessation ne doit-elle pas concorder aux manifestations de l'intelligence? Aussi est-ce une pensée qui tue, et non le pistolet. D'ailleurs, le hasard qui nous foudroie au moment où la vie est toute heureuse n'absout-il pas l'homme qui se refuse à traîner une vie malheureuse? Mais, monsieur, les méditations que je fis en ces jours de deuil m'élevèrent à de plus hautes considérations. Pendant quelque temps, je fus complice des grands sentiments de l'antiquité païenne, mais en y cherchant des droits nouveaux pour l'homme, Je crus pouvoir, à la lueur des flambeaux modernes, creuser plus avant que les anciens les questions jadis réduites en système. Épicure permettait le suicide. N'était-ce pas le complément de sa morale? Il lui fallait à tout prix la jouissance des sens. Cette condition défaillant, il était doux et loisible à l'être animé de rentrer dans le repos de la nature inanimée. La seule fin de l'homme étant le bonheur ou l'espérance du bonheur, pour qui souffrait et souffrait sans espoir, la mort devenait un bien. Cela donné volontairement était un dernier acte de bon sens. Cet acte, il ne le vantait pas, il ne le blâmait pas. Il se contentait de dire, en faisant une libation à Bacchus, « Mourir, il n'y a pas de quoi rire, il n'y a pas de quoi pleurer. »